Bonjour à chacune et à chacun. Je crois que le désir profond de chacun de nous en ce jour du Seigneur, c'est de contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Moïse, il y a bien des années, et bien des siècles même, et dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances, nous voulons dire au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, certains disciples, Pierre, Jacques et Jean, vous le savez, un jour, sur les pentes du mont Hermon, sur ce qu'on a appelé après le mont de la Transfiguration, ont eu le privilège de voir la gloire de Jésus à ce moment-là. Et nous, quelques 2000 ans plus tard, nous pouvons cependant le voir par son esprit, par sa parole et par la foi. Nous pouvons voir quelque chose de sa gloire. Et pour cela, je vous propose l'étude d'un autre cantique. Gérard nous a partagé, étudié la semaine passée, un cantique tiré de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, qui nous décrivait que Jésus, étant Dieu, s'était dépouillé pour nous sauver, et ensuite Paul nous parlait de sa glorification. Alors celui-ci concerne plus précisément l'origine de Jésus, sa nature. Il s'agit du très beau cantique qui se trouve dans Colossiens, au chapitre 1. Je vais vous le projeter tout à l'heure, donc vous pourrez peut-être le suivre là directement. C'est celui qui commence par « Il est l'image du Dieu invisible ». Alors, quelques mots du contexte. Paul est en prison, probablement à Rome. Il n'a jamais visité cette église de Colosse qui semble avoir été fondée et suivie par Épaphras. Mais, comme dans beaucoup d'autres églises qu'il avait fondées, il est en butte à des hérésies, à un gnosticisme naissant qui se mêlait à certaines tendances judaïsantes et qui voulait que le bien coïncide avec l'esprit et le mal avec la matière, avec le corps. Et pendant tout au long de son épître, il va lutter contre cette tendance à la fois d'ascétisme, mais aussi de débauche, curieusement, qui régnait dans cette église. Et en particulier contre une hérésie qui s'est développée plus tard au cours des siècles, qui consistait à croire qu'il y avait entre Jésus et Dieu, et puis nous, toute une hiérarchie d'intermédiaires qu'on appelait des éons, et que Christ n'était que l'un de ces intermédiaires. Il faudra d'ailleurs plus de 450 ans à l'Église pour arriver à définir une doctrine de la Trinité et pour arriver à comprendre et à admettre ces deux natures de Jésus-Christ. Au passage, je voudrais vous faire remarquer jusqu'où est allée l'incarnation de Dieu. Non seulement jusqu'à confier la rédaction du Nouveau Testament, plus bien sûr l'Ancien, avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit, ça n'a pas été une dictée mécanique. Vous savez que, une petite parenthèse, Mahomet prétend avoir reçu par justement une révélation de dictée mécanique ces fameux versets sataniques. Mais il n'en a pas été du tout de même pour les rédacteurs du Nouveau Testament. Également, nous le voyons dans notre cours de grec, que les copistes ont ajouté pas mal de petits détails, je dirais, ça n'a rien de fondamental quant à la doctrine, mais qui modifient quelquefois un peu le texte. Et là encore, le Seigneur a confié à une commission qui est dirigée par Bruce Metzger, qui a étudié une commission composée d'historiens, d'archéologues et de linguistes, qui leur a donc confié le soin de définir un texte reçu, qui est notre base d'étude du Nouveau Testament. Et puis, il a laissé le soin aux hommes de définir la doctrine chrétienne, les grands dogmes du christianisme à travers ces quatre conciles de Nicée en 325 jusqu'au concile de Chalcédoine en 451. Et donc ce cantique nous présente et établit la position du Christ dans l'univers et dans le plan de Dieu. C'est un très beau texte, vous verrez, riche, structuré, qui comporte deux strophes. Alors, comme Gérard le signalait à propos de l'autre cantique, les théories peuvent différer selon que certains pensent que c'était un cantique qui circulait déjà dans l'Église primitive, ou bien que Paul l'aurait composé. C'est vrai qu'il avait aussi le temps en prison de réfléchir à tous ces problèmes. Et donc, alors, je vous propose d'examiner comment il est bâti et quels sont les principaux termes de ce cantique et les enseignements qu'il faut en retenir. Après tout, si Jésus est non seulement notre modèle, mais aussi notre chef, s'il vit en nous et nous transforme quotidiennement à son image, je crois qu'il est important de savoir réellement qui il est. Donc, j'ai fait un transparent. Je vais essayer de vous le projeter. Alors, donc voilà, deux grandes strophes, l'une qui commence par j'espère ne pas trop boucher la vue. Nous allons le lire d'ailleurs. Lui qui est l'image du Dieu invisible, premier-né par rapport à toute la création, parce qu'en lui ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, que ce soit des trônes ou les seigneuries, que ce soit les puissances ou les pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Et lui est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et lui est la tête du corps de Christ, enfin de l'Église, c'est-à-dire de lui qui est l'Église. Lui qui est l'arché, j'ai mis le mot grec là parce que c'est un mot qui signifie à la fois le commencement, qu'on trouve dans le prologue de Jean, par exemple, mais aussi le commandement, le chef, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit lui-même en tout le premier, parce qu'en lui, il a plu de faire habiter toute la plénitude et par lui de réconcilier toutes choses pour lui. Lui qui a fait la paix par le sang de sa croix, par lui les choses sur la terre comme les choses dans les cieux. Alors, j'ai apporté un peu de couleur pour remarquer, je ne sais pas si on distingue bien le jaune, mais tout ce qui est, chaque fois qu'il est question de lui, lui qui est, en lui, par lui, pour lui, lui, en lui, lui est la tête, lui qui est l'arché, lui-même, en lui, pour lui, etc. En rouge, chaque fois que l'apôtre Paul emploie l'adjectif tout, toute la création, toute chose, tout a été créé, toute chose, tout subsiste en lui, afin qu'il soit en tout le premier, toute la plénitude, toute chose. Alors, surligné en vert, les deux grands points, les deux grands axes de ce cantique, premier-né par rapport à la création, premier-né d'entre les morts, et puis, avant toute chose, il est la tête du corps, l'arché. Et il répète encore ici, afin qu'il soit lui-même en tout le premier. Nous reviendrons sur chacun de ces termes. Voilà, bon, ça c'était l'essentiel. Je vais le laisser d'ailleurs au tableau. Je vais peut-être garder ce micro finalement, qui s'avère assez pratique plutôt que celui-là. Donc vous avez remarqué sans doute qu'il y a un terme qui revient trois fois dans ce texte, un terme qui est en quelque sorte le terme clé, comme le thème central de ces versets, c'est le mot « premier ». Alors, c'est vrai que le mot « premier » en français et dans d'autres langues a plusieurs sens, mais ici, il ne s'agit pas, je le dirai tout de suite, de l'adjectif habituel « premier » en grec, qui est « protos ». Nous connaissons les protozoaires, les prototypes. Là, en fait, c'est le participe présent d'un verbe qui est peu employé, d'ailleurs, il est employé ici, et il est employé une fois dans l'Ancien Testament, dans la version grecque, la Septante, dans le livre d'Esther. Et il désigne quelqu'un, par contre, il figure plusieurs fois dans les textes anciens de Platon, dans les Lois, par exemple, ou de Xénophon, qui était un général historien et qui parlait beaucoup aussi des chefs, des rois, des princes de cette terre. c'est le participe présent d'un verbe qui signifie occuper le premier rang, la première place. Donc ce n'est pas simplement le premier dans l'ordre chronologique, c'est également et surtout le chef suprême. Et c'est ce terme que l'apôtre Paul applique ici à Jésus-Christ. Le Père a voulu que son Fils occupe en tout le premier rang, qu'il soit le plus élevé en dignité. Il a voulu affirmer la primauté du Fils sur tous les plans et dans tous les domaines. Certains parents souhaitent que leurs enfants soient les premiers en classe. C'est une ambition très louable qui peut quelquefois causer quelques problèmes. Mais le Père, lui, a voulu que son Fils soit reconnu pour ce qu'il est. Il a voulu que ce que le Fils est éclate à tous les regards. Et la troisième fois que ce terme est employé, c'est sous forme de premier-né, en composition. Et nous remarquons deux formules parallèles, premier-né de toute la création, premier-né d'entre les morts. Ce « en tout » évoque les deux grandes œuvres de Dieu. Dieu a voulu que son Fils soit le premier dans l'œuvre de la création et dans l'œuvre de la rédemption. D'un côté, la première création, et de l'autre, la nouvelle création qui est la seconde œuvre de Dieu. Alors pourquoi, dirons-nous, a-t-il fallu deux œuvres de Dieu, une œuvre créatrice et une œuvre rédemptrice ? La première était-elle imparfaite ? Non. À la fin du sixième jour, après avoir créé l'homme, Dieu dit « c'était très bon ». Si la rédemption a dû succéder à l'œuvre de formation créatrice, ce n'est pas qu'elle avait besoin comme d'un petit coup de pouce, un dernier coup de pinceau, rectifier un petit détail. Non, c'est qu'en fait une catastrophe était intervenue après la création. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs au verset 14, 13 et 14 qui précède, nous dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres ». Les ténèbres avaient pris le pouvoir dans cette création qui était bonne et lumineuse de Dieu. Et il précise en lui, en Jésus, nous avons obtenu la rédemption, le pardon des péchés. S'il y a deux œuvres de Dieu, c'est parce que le péché est intervenu. Pensez à une voiture neuve qui sort d'usine et qu'un conducteur maladroit, voire méchant, précipite sur un platane. Imaginez la condition de cette voiture. Imaginez un chef-d'œuvre, une peinture merveilleuse et quelqu'un avec un cutter ou un pinceau va faire des dégâts, un horrible gribouillage sur ce chef-d'œuvre. Ça n'est pas un simple accident de parcours, une bavure. Le péché avait gravement atteint la beauté de ce que Dieu avait fait. C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu déploie à nouveau toute la force de son bras. Il a fallu l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui était le premier-né, selon l'ordre de la création, nous reviendrons sur ce terme de premier-né, a dû devenir librement de son plein gré le premier-né dans l'ordre de la rédemption. Et cette dualité, c'est ce que nous appelons en fait les deux natures de Jésus. Il est d'abord le premier-né, c'est-à-dire le chef de la création, selon sa divinité, Dieu, Fils de Dieu, éternellement. Et il est le premier-né d'entre les morts, devenu homme, devenu le nouvel Adam, comme Paul l'appellera dans l'Épître aux Romains, le chef d'une nouvelle humanité. Et nous allons le voir en considérant maintenant les deux strophes de ce cantique. Premièrement, premier-né de toute la création. Surtout pas la première des créatures à être née. Certains ont à choper, dès le début du christianisme d'ailleurs, sur cette expression de l'apôtre Paul, et ils ont compris que Jésus avait été créé. C'est le cas de l'hérétique Arius qui a vécu de 256 à 336, donc 80 ans quand même. C'est beaucoup, je trouve, pour un hérétique, mais enfin, Dieu laisse pousser l'ivraie et le bon grain en même temps. Et c'est cette thèse que les témoins de Jéhovah, vous le savez, ont reprise jusque de nos jours. Si vous les écoutez, ils vous diront très gentiment, Jésus-Christ est la créature suprême et première parmi toutes les autres créatures. Ils ont poussé l'audace, si je peux dire, à ajouter le mot « autre ». Alors ils l'ont mis entre crochets, c'est vrai, pour faire croire que ce mot « autre » figure dans certains manuscrits. C'est ce qu'on trouve, nous l'avons vu en grec, quand certains copistes trouvent qu'un mot irait très bien, alors ils le mettent entre crochets et la commission Metzger, quelquefois, le laisse passer parce que c'est vrai qu'il peut présenter un certain intérêt. Alors ils vous diront, il est certes avant les autres, mais il n'est quand même qu'une créature, une espèce de super créature, si vous voulez. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Le texte ne dit pas la première des créatures, il dit le premier-né de toute la création. Alors là, je vais faire intervenir un petit peu de grec, si vous voulez. Il y a en fait deux mots à travers le Nouveau Testament qui concernent tout ce qui est créature et création. Il y a un mot abstrait, je vous le cite, c'est le mot « ktisis » qu'on retrouve dans beaucoup de mots français qui se terminent en « se », analyse, etc., synthèse. C'est un mot abstrait qui est toujours au singulier. On ne peut pas le dénombrer, si vous voulez. C'est le mot qui est employé ici. Il désigne la création. Et l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 5, 17, peut dire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, c'est-à-dire il est le résultat d'une nouvelle création. Il a fait l'objet d'une recréation. » Et voici, il précise d'ailleurs, « Les choses anciennes sont parties », c'est le mot qu'il emploie, « et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. » Il emploie le temps qu'on appelle le parfait, qui désigne une action qui se poursuit, qui n'est pas terminée. Et c'est le mot qu'emploie l'apôtre Paul ici. Alors par contre, il y a un deuxième mot qui est très proche de la même racine, « ktisma », mais qui, lui, peut se mettre au pluriel, que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jacques 1, 18 nous dit « Il nous a engendrés, nous les humains, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Et Jean, dans l'Apocalypse, l'emploie même pour désigner des animaux. Au chapitre 8, au son de la trompette du deuxième ange, il nous est dit que le tiers des créatures de la mer, c'est-à-dire des poissons et des monstres, périt, ainsi que le tiers des navires d'ailleurs. Et donc c'est une expression tout à fait différente que l'apôtre Paul emploie ici. Il ne s'agit pas du premier simplement chronologique, mais du premier par rapport et en contraste avec l'ensemble de la création. Après tout, on peut très bien dire le premier, mais en parlant d'une série auquel cette personne n'appartient pas. Par exemple, le directeur d'une maison de retraite n'a pas forcément 95 ans, il faut l'espérer. Le directeur d'un zoo n'est pas nécessairement ni un prognathe, ni un éléphant, ni un crocodile. On peut très bien donc, et c'est le cas de notre Seigneur, il n'a pas besoin d'être une créature pour être à la tête de la création. Et d'ailleurs, ce qui suit exclut totalement que Jésus n'ait été pour Paul qu'une créature même supérieure aux autres, puisqu'il dit « c'est par lui, en lui et pour lui que tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, le visible, l'invisible, les pouvoirs, les autorités, etc. » C'est-à-dire aussi les êtres célestes les plus glorieux. Tous ces êtres-là ont été créés par lui. L'apôtre dit à plusieurs reprises, nous l'avons vu, « tout ». Il met ce Fils par qui tout a été créé au-dessus des créatures. On ne peut pas être à la fois une créature et celui par qui tout a été créé. Ce serait une contradiction. D'ailleurs, il ajoute au verset 17, « Il est, pas il était, mais il est avant toute chose. » Il n'a donc pas un commencement dans le temps. Et comme Jean dit au chapitre 8 de son évangile, Abraham, en citant donc Jésus, Jésus lui-même le dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis celui qui suis. » Paul affirme donc ici avec certitude, avec netteté, l'éternité du Fils qui est celle même de Dieu. Alors, il y a deux mots qui, à mon sens, méritent un éclaircissement. C'est d'abord le mot « engendrer ». Alors, vous allez me dire, il ne figure pas dans ce texte, et c'est vrai. Par contre, il figure dans le terme que Paul emploie pour dire le premier-né. C'est le terme « prototokos » qui inclut le verbe « tikto », qui veut dire « mettre au monde »,« engendrer ». On l'emploie aussi bien pour un homme que pour une femme, d'ailleurs. Donc, quand Paul dit le premier-né, il veut dire le premier qui ait été engendré. Engendré, mais pas créé ni formé comme Adam. C'est ce qu'a reconnu justement le concile de Nicée en 325, qui a défini la nature même de Jésus. Et un des termes qu'il a employé, c'est celui-ci, engendré et non pas créé. Je voudrais un instant m'adresser aux parents ici, papa et maman, pour vous faire toucher du doigt l'immense privilège que Dieu vous a fait d'avoir mis au monde un être à son image. Je voudrais insister également auprès des moniteurs d'école du dimanche pour leur dire le privilège et la responsabilité qui est la vôtre. Responsabilité voulant dire qu'on doit un jour répondre de ces créatures. Il nous est dit en Genèse 5:1, Adam à 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Donc l'enfant que vous avez mis au monde ou celui qui vous est confié, c'est un être à l'image de Dieu. Donc pour en revenir à cette notion d'engendrer, au psaume 2, il est dit, c'est un psaume royal et messianique tout à la fois, « Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. » Engendrer, ça veut dire non seulement établir dans une dignité, dans une fonction, mais également signer une alliance avec une personne. C'est un acte éminemment spirituel. Le deuxième terme qui mérite aussi une explication, c'est le terme de premier-né ou, si vous voulez, premier engendré. Il s'agit en fait du fils aîné. Ce n'est pas simplement le fait qu'il était le premier d'une série temporelle. Et d'ailleurs, si on étudie l'Ancien Testament, on s'aperçoit que le droit d'aînesse n'était pas toujours confié au premier-né. C'est le cas de Jacob. Nous savons comment il se l'est procuré, mais enfin, c'est quand même le fait. Joseph également a été béni, et David également, qui a hérité de la royauté. Le fils aîné, en fait, c'est celui à qui on transmet son image, son autorité. C'est celui qui reçoit du père la dignité de l'héritier, tout spécialement. Dans le droit que Dieu avait fixé à Israël, le fils aîné héritait d'une part double, afin que le patrimoine ne soit pas morcelé et qu'il puisse ainsi continuer avec la lignée du fils aîné. Jésus-Christ est l'héritier qui, dans le royaume du Père, a tous les droits sur toute la création. Nous trouvons d'ailleurs un passage parallèle au début de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Dieu, après avoir parlé de différentes façons, etc., a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé le monde. Ce fils, précise-t-il, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être ou de sa substance. Il soutient toute chose par sa parole puissante. » Et après, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous indique que ce fils est supérieur aux anges, à Moïse et à Aaron. Le psaume 89 déjà annonçait la venue du Messie dans ces termes. « Je ferai de lui le premier-né, c'est-à-dire l'aîné, le premier engendré, le très haut parmi les princes, parmi les rois de la terre. » Donc cela ne signifie pas simplement né avant les autres, mais celui qui a été exalté, qui a la souveraineté, celui auquel Dieu a remis tout son domaine, tout son pouvoir. D'ailleurs, au chapitre 8 du livre des Proverbes, nous trouvons une personnification de la sagesse qui nous est présentée comme la fille de Dieu, engendrée par Dieu avant que toutes les créatures aient été produites par le Créateur. L'Éternel me possédait avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi de toute éternité avant l'origine de la terre. J'ai été engendré quand il n'y avait point d'abîme, avant que les montagnes soient établies, avant les collines j'ai été engendré. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais de jour en jour ses délices. Quelle belle description de cette sagesse de Dieu qui est l'expression même d'une personne, la sagesse, les qualités. Et Paul attribue exactement à Jésus-Christ les mêmes fonctions que celles de la sagesse de Dieu dans le livre des Proverbes. Jésus-Christ, donc, avant même son incarnation, était de toute éternité l'image même, l'expression parfaite du Père. Car c'est par lui, par ce Fils, cette parole, cette sagesse, que toutes les choses ont été créées. Il est en quelque sorte le maître d'œuvre, l'architecte suprême. C'est pourquoi il a tout disposé d'une manière aussi belle, aussi harmonieuse, aussi fonctionnelle. N'oublions pas, et l'apôtre Paul souligne dans ce passage, que tout subsiste, c'est-à-dire en fait tout tient ensemble par lui, le visible, l'invisible. Et il parle là, Paul, il fait allusion au culte des anges qui commençait à se faire jour dans ces églises. Il dira au chapitre 2, verset 18, que personne, par l'humilité, une fausse humilité et le culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Il y avait des gens à Colosse qui disaient aux chrétiens, il y a Jésus-Christ, bien sûr, mais il y a aussi tous ces êtres célestes, tous ces personnages de lumière, tous ces intermédiaires, ces médiateurs, et il faut leur réserver une place quand même à eux aussi. Mais Paul nous dit ici très clairement, toutes ces puissances ont été créées par le Fils et sont sous sa domination. Alors j'aimerais vous livrer quatre arguments supplémentaires qui pourront vous aider dans des discussions avec des personnes qui nieraient la divinité de Jésus-Christ. La première, qui m'est essentiellement personnelle, c'est de dire à ces personnes, mais imaginez, moi personnellement, je serais plutôt gêné d'adorer un Dieu qui aurait créé un homme uniquement comme un animal destiné à la boucherie, finalement. Il ne l'a pas permis à Abraham de sacrifier un fils, il a pourvu lui-même un bélier. Alors comment aurait-il pu concevoir qu'un homme puisse même porter tous les péchés de l'humanité? Ça n'est pas possible. Il ne peut s'agir que de Jésus. Deuxièmement aussi, dire, mais si Jésus n'a pas agi de son plein gré librement, alors il était partagé. Il avait deux natures, enfin deux volontés, je veux dire, qui étaient opposées, qui étaient juxtaposées. Mais un troisième argument que j'ai remarqué, c'est que Jésus ne dit jamais « notre Père » quand il parle à ses disciples. Il dit soit « le Père », soit plus souvent « mon Père ». Alors vous allez me dire « oui, mais dans le « notre Père ». ». Alors eh bien, le « notre Père » n'est pas une prière que Jésus a faite. C'est une prière qu'il a enseignée pour ses disciples, à la demande d'ailleurs, d'après l'évangile de Luc, de l'un d'eux. Mais Jésus n'a jamais eu besoin de dire à Dieu, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à mes détracteurs ou à mes bourreaux. Et puis je dirais en dernier argument, Dieu est un Dieu jaloux. Dès l'Exode, il nous dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et c'est bien ce que Satan avait compris. Lui qui, voulant se faire Dieu, l'égal de Dieu, a été déchu, et c'est ce qu'il a essayé d'instiller dans l'oreille d'Adam et Ève, avec les résultats que nous savons. Alors le deuxième titre de Jésus, qui correspond au deuxième couplet, c'est le premier-né d'entre les morts. Il est bien sûr ici référence, il fait référence à la résurrection au matin de Pâques. Et par sa résurrection, Jésus est devenu le Seigneur et le Christ, comme le dira Pierre en acte 2 dans son discours le jour même de la Pentecôte. Il est donc devenu le premier, le chef d'une immense lignée d'hommes et de femmes qui reçoivent la vie nouvelle, la vie de résurrection. Une nouvelle humanité a émergé le jour de Pâques, une nouvelle création. Le nouvel Adam, qui n'a pas cette fois été créé, comme en Genèse 1, mais engendré. Jésus a dit, il faut naître de nouveau, il faut être engendré par le Saint-Esprit. Adam a été le premier homme de la vieille humanité, et tous les hommes, je dirais hélas, lui ressemblent et portent son image.
Mais en Jésus-Christ, le jour de Pâques, une nouvelle humanité a été engendrée. Et il nous est promis à nous, qui nous attachons à lui, que nous serons semblables à ce qu'il est. Et cette nouvelle humanité, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous. C'est ce que la Bible appelle l'Église ou le corps de Christ. Pas seulement une addition de frères et de sœurs juxtaposés les uns aux autres, mais une communauté où tous sont liés les uns aux autres avec des fonctions différentes, exactement comme dans un corps. Et puis pas seulement une église locale, mais toutes les églises du monde entier, l'Église universelle. C'est ce que Paul dit dans la deuxième strophe du cantique, il est la tête, il est le chef du corps, c'est-à-dire l'Église, il est l'arché, le commencement et le commandement, l'aîné des ressuscités. Et ceux qui s'attachent à lui seront engendrés, ils sont engendrés, ils ont part dès à présent à la vie de la résurrection. Avec la promesse que même notre corps sera renouvelé à l'image du corps de Christ, un corps glorifié, un corps spirituel. Et pour que cela devienne possible, il n'était pas suffisant que Jésus soit devenu un homme. Ce n'est pas la simple incarnation qui a permis que la vie nouvelle, la résurrection, soit dispensée à tous les hommes qui s'attachent à Jésus. Il a fallu davantage. Il a fallu que Jésus consente à cet acte pour lequel il était venu dans le monde, cette œuvre de la croix. Et c'est pour ça que Paul dira, dans la deuxième strophe, « Il lui a plu de tout réconcilier par le sang de la croix ». Il dira un peu plus loin, au verset 21, « Vous étiez autrefois étrangers, ennemis, aliénés, comme dit la Vulgate en latin, par vos pensées aliènes. » En anglais, ça veut dire un étranger, ça vient d'alius, qui veut dire autre, alter. Donc vous étiez étrangers, vous étiez même ennemis par vos pensées, mais il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire apparaître devant lui saints, sans défaut, sans reproche. Il a fallu cette mort parce qu'il fallait régler le problème de la justice, du péché qui était là. Et Jésus l'a pris sur lui. Alors il y a une petite difficulté ici de compréhension, comme d'ailleurs Gérard l'a souligné quand il nous a dit que Jésus a tout réconcilié. Alors on admet volontiers qu'il a réconcilié l'homme, mais a-t-il pour autant réconcilié toutes les créatures célestes, y compris Satan et les démons? Certains se basent sur ce texte pour parler d'un salut universel qui sera accordé en dernier recours à tous les hommes. Mais précisons qu'il y a en fait deux manières de réconcilier. La première, c'est la véritable réconciliation, le pardon qui est accordé à ceux qui veulent se laisser libérer, un pardon gratuit, pour tous les péchés. Ça correspond d'ailleurs à l'étymologie du mot concilier, en français comme en latin, c'est-à-dire ramener dans le conseil, le mot conseil lui-même venant du mot appelé kaléo. Alors, notons cependant que Dieu est réconcilié avec nous, il a fait le nécessaire pour, mais notre esprit est concilié par la foi avec Dieu également. Mais notre vieille nature, notre vieil homme, est toujours ennemi de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit « Veillez et priez ». Et puis il y a une autre façon d'assurer cette réconciliation qui correspond plutôt à l'étymologie grecque, où là, il s'agit d'un changement, total. C'est un peu ce que, pour ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, on a connu dans la pacification. C'est-à-dire que les troupes arrivaient, on le vit aussi dans d'autres parties du monde, et par la force, elles arrivaient à soumettre les révoltés contre l'autorité, à leur retirer les armes. Alors je ne prends pas position sur la guerre d'Algérie, on sait ce que ça a pu donner. Mais c'est le jour où Dieu remettra de l'ordre dans tous ceux qui se sont révoltés et leur imposera cette soumission. Alors comment une telle victoire a-t-elle pu être acquise? Comment est-ce que c'est par le sang de la croix qui peut paraître comme un moment de faiblesse extrême que Jésus a vaincu l'ennemi, le diable? Eh bien, Nous le savons, l'arme du diable, c'est la justice, c'est la loi. L'arme du diable, c'est de pouvoir dire à Dieu, tu as dit toi-même dans ta loi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si tu es véritablement juste, tu dois donc condamner cet homme, puisqu'il a péché. Et il dit vrai. Selon la justice, il a raison. Il est l'accusateur, pensez au procureur général d'un procès, celui qu'on a appelé l'avocat général. Il y avait en fait une seule manière pour Dieu de triompher de cet adversaire, de cet argument, et ainsi de pacifier cette humanité révoltée. Il fallait lui enlever son arme, l'arme de l'accusation. Il fallait que la dette soit payée, que le péché soit enlevé des épaules de ceux qui avaient péché et qu'il soit expié. Ce sera en fait par le juste, mort pour des injustes. Et une fois que l'aiguillon du péché, qui est la loi, a été enlevé parce que Jésus l'a pris sur lui-même, le diable n'a plus d'armes. Il est précipité, dira l'Apocalypse 12, l'accusateur de nos frères. Il est précipité du ciel. Et ainsi, tout peut être réconcilié. Telle est la vision que l'apôtre Paul nous propose dans ce beau cantique. Pour conclure, je voudrais simplement souligner quelle est la portée pour nous de cette certitude que notre Seigneur Jésus a en tout la primauté, la souveraineté absolue. Pourquoi, en d'autres termes, est-ce si important pour nous de savoir que ce Sauveur est en même temps notre Créateur et que notre Créateur est devenu notre Sauveur? Premièrement, pourquoi est-ce important que ce soit notre Sauveur qui soit notre Créateur? D'abord, ça prouve la grandeur, la majesté de sa personne. Jésus n'est pas simplement un Jésus bon copain, un homme qui a fait de grandes choses pour nous, un héros. C'est le Dieu Créateur lui-même, celui par qui tout a été créé et tout tient dans l'univers. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Quelle ne doit pas être notre reconnaissance, notre louange envers lui? Et puis, cela ne doit pas nous faire craindre que nous manquions de quoi que ce soit. Qu'en devenant chrétien, on se prive de quoi que ce soit, de son amour, de ses révélations, de ses bienfaits. Lorsqu'il vient à notre secours dans le salut, il nous fait retrouver les bontés, les beautés de sa création. Il nous permet de jouir enfin d'une manière libre, saine, vraiment fructueuse. C'est ce qu'on voit à travers toute la Bible. Quand on se rend compte que c'est le Dieu de l'univers qui est notre Sauveur, on peut être délivré d'une vie chrétienne étriquée, dominée par la culpabilité, les interdits. Fais ceci, ne mange pas cela, des interdits que nous nous imposons à nous-mêmes ou bien que nous imposons les uns aux autres. Et sachons-le, en faisant ce genre de choses, nous faisons quelque part le jeu de Satan. Je pense qu'il doit un peu se régaler, entre guillemets, se frotter les mains quand il nous voit tomber dans ce genre d'attitude. Par ailleurs, réaliser que c'est notre Créateur qui est devenu notre Rédempteur, c'est nous rendre compte que toute idée de Dieu que nous nous faisons plus ou moins vaguement et qui ne correspondrait pas à Jésus est en fait une idole. Si nous imaginons le Père comme différent de ce qu'il a révélé, de ce qu'il a montré en Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs que nous faisons fausse route, car c'est Jésus seul qui est l'image du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui nous l'a fait connaître. Le Père est exactement comme Jésus, parce que c'est lui que nous découvrons en Jésus. Il est l'image du Père, l'empreinte de sa substance, le resplendissement de sa gloire. Jésus est semblable au Père, d'abord par l'intolérance qu'il avait sur terre et qu'il a toujours du péché, et en particulier de l'hypocrisie. Pensez aux mots très durs qu'il a prononcés envers les chefs religieux de son temps, hypocrites. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne verrez jamais le royaume de Dieu, etc. Il est semblable au Père par sa puissance, nous en parlions tout à l'heure, capable de dompter la mer, les éléments, par sa tendresse. Pensez avec quelle tendresse il a repris Pierre après ce terrible reniement. avec quelle tendresse il a pleuré sur Jérusalem, par sa patience, par sa compassion. C'est vraiment le Père que nous voyons dans le Fils. Et de penser que jour après jour, nous devenons semblables au Fils, quel privilège, quel honneur. Au fond, que notre Créateur soit notre Rédempteur, c'est ce qui nous révèle que Dieu est amour. Que ce cantique nous aide à garder présente à l'esprit ses grandes, ses éternelles vérités. Qu'il nous aide à veiller, à prier sans relâche, afin que toute notre vie puisse faire honneur, puisse refléter la dignité, la gloire de celui qui nous est présenté dans ce passage. Amen.